est la substance première, qui est le sujet de toutes les déterminations. La substance première, sujet de toutes les déterminations, est essentiellement le suppos. Comme on dit, selon le terme scolastique, c'est-à-dire le sujet qui reçoit les déterminations. Tandis que le je n'est pas du tout saisi comme suppos en premier lieu, mais comme source. Je suis, c'est pas en premier lieu ce qui, en quelque sorte, porte cette détermination d'exister. Mais c'est ce qui exerce l'exister. Je suis. Je mange. Je travaille. Mais il y a là quelque chose qui me semble très nettement différent entre la substance première, qui est le suppos. Je souligne ça parce que c'est ça, vous voyez, que de fait, la phénoménologie a voulu à tout prix dépasser, et elle a raison. Quand on dit que le je n'est pas une chose, la personne n'est pas une chose, tandis que la substance première, le todéti, c'est une chose. C'est le ceci. Ça, c'est une chose qui supporte et qui reçoit toutes les autres déterminations. Dans le je, l'affirmation du je suis, c'est autre chose. Et je crois que ça, on peut assez facilement le comprendre. Pour mieux le saisir, je peux essayer de comprendre comment le je est vraiment à la source de toutes mes activités vitales. Vous voyez, je pense, j'aime. Alors, je regarde à la fois la substance première, le dépassement de la substance première, et puis en même temps, quand je dis source, je m'incline du côté de l'âme, puisque la philosophie première présuppose toute la philosophie du vivant. Et donc je peux parler de la relation du je avec l'âme. Et c'est sûr que le je implique l'âme. C'est ce qui est source de toutes mes activités. Et c'est ce que nous allons essayer maintenant de comprendre. Qu'est-ce qui est impliqué dans le je? Je peux évidemment rester à un niveau de conscience psychologique. Alors à ce moment-là, le je serait le moi. Je donne une consistance au je en disant « c'est moi le je ». C'est pas la même chose de dire le moi et le je. C'est évident que ça s'identifie. Mais le moi, j'ai conscience du moi. Je crois que le moi est du côté psychologique. Et le toi aussi, le je, exprime quelque chose de plus radical. Vous voyez, vous ne direz pas moi exister. Moi, j'existe. C'est curieux. Là, je suis au niveau, évidemment, d'une étude pas encore philosophique, si vous voulez, pas encore métaphysique, mais je m'approche pour essayer de voir toute l'intensité, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, l'intensité du je. Je crois que c'est important dans le sens de la phénoménologie d'aujourd'hui. Je ne vais pas m'arrêter là, c'est bien évident. Mais c'est quand même quelque chose d'important de mettre en pleine lumière que le je n'est pas une chose, qu'il est une source. Et qu'il est une source à la fois vitale de toutes mes opérations. et de mon exister, qui implique les deux, et qui n'est pas le moi. Des psychologues, les psychologues pas, parleront du sentiment du moi. Alors, c'est peut-être intéressant ici de montrer ce que les psychologues disent à propos de ce sentiment du moi. Je crois que c'est Charles Audier qui a le mieux précisé cela. Je ne suis pas spécialiste au point de vue psychologique, mais dans le dialogue avec les psychanalystes, eux m'ont dit que ce qu'ils trouvaient de mieux, c'était Charles Audier. Alors j'ai regardé Charles Audier, et en effet c'est un psychologue astucieux, qui parle de ce que représente la construction de la personnalité. Comment la personne peut se structurer. Il parle alors des sentiments du moi. Vous voyez, on parle des sentiments du moi, c'est pas du tout le jeu. Les sentiments du moi, pour lui, il y a trois sentiments du moi qui structurent le moi au niveau psychologique. Et c'est le sentiment de l'autonomie, le sentiment de la valorisation et le sentiment de sécurité. Je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant à souligner. Et nous verrons comment ces trois aspects du sentiment du moi, au niveau psychologique, on peut facilement le comprendre. Ça. On est au niveau psychologique, donc c'est assez facile. Tâtez-vous le pouls. Il y a des moments où vous êtes angoissé. Hein? Petite expérience. N'y restez pas, hein, c'est pas la peine. Parce que c'est pas ça qui nous fait découvrir la métaphysique. Il y a des moments où on est un sentiment de culpabilité. Faut pas non plus y rester. Et puis il y a des sentiments d'aliénation. Vous voyez, je crois qu'on peut tout ramener. Et c'est ça qui m'intéresse dans Charles Audier. C'est d'essayer, là, je réfléchis sur Charles Audier, pour comprendre la différence entre le « je » et le « moi ». Essayez de comprendre la différence entre les deux. Le « moi » psychologique, et on peut parler des sentiments du « moi » et du « moi » fort. Et Charles Audier dit que la personnalité se construit autour du sentiment du « moi » dans l'autonomie. C'est bien évident qu'une personne a un sens d'autonomie. Ça, on l'a très fort. Sentiment de sécurité. Et valorisation. Après tout, je vaux bien un autre. Et puis ça pousse ce sentiment de valorisation. C'est important. Petite valeur. Mais dès qu'on donne à quelqu'un qui a une psychologie un peu fragile une petite responsabilité, très minime, immédiatement, c'est très curieux. Alors, ça se construit. Je crois que ces trois sentiments du moi, point de vue psychologique, sont assez justes. Et pour bien les comprendre, Audier ne le fait pas, mais je crois qu'on peut très bien le faire. On peut mettre que le sentiment d'autonomie vient conquérir ce que représente justement le point de vue de l'aliénation. Le sentiment de valorisation, le point de vue de la culpabilité. Et la sécurité, l'angoisse. Si c'est vrai, c'est très intéressant. Je dis si c'est vrai, parce que je ne suis pas spécialiste de la chose, mais je crois que c'est vrai. Vous avez donc six sentiments du moi. On verra si on les retrouve en philosophie, dans l'aspect métaphysique. Comme je suis à partir du jeu. C'est intéressant d'opposer le jeu au bois. Parce qu'il y aurait donc six dépassements du jeu par rapport au moi. Parce que c'est vrai, au niveau psychologique, votre personnalité, elle se construit tout le temps. J'espère qu'aujourd'hui, elle est un peu plus construite qu'hier. Tâtez-vous le pouls. Puis là, le matin et le soir, il y a des gens qui sont euphoriques le matin et le soir, toujours tristes. Et l'inverse. Ça dépend des psychologies, ça. Mais ce qui est vrai, c'est que le sentiment du moi se construit dans le devenir, donc dans le temps. Alors, c'est ça qui est intéressant à bien noter. C'est que ces six sentiments du moi, ceux-ci sont positifs, ceux-ci sont négatifs. Et c'est une conquête perpétuelle. Des sentiments du moi positifs par rapport au négatif. Et ceci se construit dans le temps. L'autonomie et l'aliénation, c'est le présent. La valorisation et la culpabilité, c'est le passé. Et la sécurité et l'angoisse, c'est le futur. Ne dites jamais à quelqu'un qui est angoissé, demain ça ira mieux. Parce que c'est justement demain qui le fait angoisser. Alors ne lui parlez pas de demain. Vous augmentez l'angoisse. Vous faites une bêtise en faisant ça. Parce que le propre de l'angoisse, c'est de ne pas supporter demain. Quand vous êtes en pleine sécurité, oh, demain, regardez le gosse, demain je serai grand. Il y a une sécurité extraordinaire. Tandis que quand vous êtes un peu angoissé, tout petit peu angoissé, parlez pas demain. Essayez d'être dans le réalisme du présent. Ça, c'est très très important. Quelqu'un qui est dans la culpabilité, ne parlez pas du passé. Parce que tout le passé, c'est désastreux. J'ai fait que des bêtises en passé. Alors, la culpabilité, et la culpabilité peut aller quelquefois si fortement que vous donnez quelque chose à quelqu'un qui est sûr d'être dans la culpabilité, qu'il est sûr de rater d'avance. Vous lui donnez une assiette, il la lâche, parce qu'il casse tout. La culpabilité peut arriver à tout briser. Parce que dans ma vie, il n'y a plus aucun sentiment de valorisation. La valorisation, c'est à l'égard du passé. Vous voyez, je crois que le moi psychologique, le sentiment du moi psychologique de notre moi personnel se construit tout le temps à travers le point de vue du passé, du présent et du futur. Parce qu'on est dans le temps au point de vue psychologique. Et alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire cette conquête de la sécurité sur l'angoisse, de l'autonomie sur l'aliénation et la valorisation. On verra si c'est juste. C'est-à-dire si je peux le fonder au niveau métaphysique. Et si je le fonde au point de vue métaphysique, c'est intéressant de voir ça. Posons ça au moins au point de vue psychologique pour voir le dépassement du je par rapport au sentiment du moi. Et ça, c'est très important. Je ne peux pas identifier le je au moi. Sentiment du moi, il est dans le temps. Le je est au-delà du temps. Hier, je me suis endormi. Ce matin, je me suis levé. Et c'est au-delà du temps. N'allez pas me dire que le je d'hier au soir n'est pas celui de ce matin. Ce serait la catastrophe. Tandis qu'hier au soir, mon moi psychologique était très bas, j'étais très fatigué. Il était grand temps de me coucher. Mais autrement, je crois que j'aurais perdu pédale. Ça n'allait plus du tout. Mon moi change. Il évolue, mon moi. Il se modifie, vous voyez. Je tâte le pouls. Tandis que pas le jeu. C'est pour bien comprendre que le jeu est au-delà de ces six sentiments de personnalité au point de vue psychologique. Donc, dépassons, ça, les fémologues sont farouches là-dessus, dépassons le point de vue psychologique pour découvrir la source. La source est au-delà du point de vue psychologique. Donc, de plus en plus, je vois que le jeu et source. Une source cachée, comme toujours les sources, mais source de toutes les déterminations. Donc, si je veux maintenant, au plan, après avoir constaté ça, alors je peux développer ça, vous comprenez? On peut développer les six sentiments du moi de façon multiple. Mais c'est intéressant comme examen psychologique. De temps en temps, il faut faire un petit examen psychologique. Où est-ce que vous en êtes? Vos sentiments du moi, votre personnalité, où est-ce qu'elle en est? C'est bon. Alors, on va voir votre autonomie. Est-ce que vous avez suffisamment de sentiments d'autonomie? Vous n'êtes pas aliéné dans une communauté aussi lourde. L'aliénation, c'est ça, c'est par rapport aux autres. Impossible de pousser, il y a un macadam si puissant autour de moi. Et alors, là, le sentiment d'aliénation. Et c'est vrai, quand on a un gros couvercle autour de soi, le sentiment d'aliénation, il y en a qui ne peuvent pas supporter. 40 autour d'eux, ils s'étouffent. Un peu impossible, impossible. Ils s'étouffent. C'est très lourd à porter. Donc, leur autonomie n'est pas assez forte. Alors, le gros problème, c'est comment acquérir une autonomie forte par rapport à l'aliénation. J'ai un sentiment de culpabilité. Une culpabilité psychologique, je ne parle pas d'une culpabilité morale. Mais le scrupule, le passage du psychologique au moral, ça se fait par le scrupule, du côté de la culpabilité. Et il est évident qu'il y a une angoisse qui provient de la culpabilité, qui n'est pas du tout la même. Parce que d'une certaine manière, c'est la culpabilité, angoisse. L'aliénation, angoisse. Donc, on pourrait dire qu'il y a trois formes d'angoisse. Et d'une façon générale, on pourrait dire que c'est de l'angoisse. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? C'est la perte de toutes les déterminations. Vous êtes devant un abîme qui vous attire. L'angoisse, c'est l'attraction du vertige. C'est ça l'angoisse, au point de vue profond. Je suis attiré vers quelque chose qui... où il n'y a plus de détermination. Alors il n'y a plus de sentiment du moi. C'est le sentiment du moi, quelque chose de fort. On peut assez facilement comprendre ça. Mais si je prends uniquement au point de vue psychologique, je constate que je suis dans ce conditionnement relatif aux autres, à mon milieu. Parce que vous voyez, lorsqu'il s'agit de la sécurité, de l'autonomie, l'aliénation, c'est par rapport au milieu. Parce que c'est le présent. Par rapport à la valorisation, c'est moi. Mais c'est encore le milieu. La culpabilité. Je n'ai pas fait ce que je devais. Alors il y a la culpabilité par rapport au milieu et la culpabilité par rapport à soi. Par rapport à moi. Et c'est un sentiment de responsabilité qui croule. Toujours tout s'est brisé. Sentiment de l'échec. C'est ça, sentiment de l'échec. Toujours tout a brisé. Ça prend des formes différentes, c'est évident. Mais c'est un primat du négatif. Vous voyez, trois primats du négatif. Et je crois que ça structure un peu une matière qui est essentiellement sable mouvant. Alors maintenant, réfléchissons au plan philosophique. À partir de cette petite réflexion sur « je suis », ce qui est important, qu'est-ce qui est impliqué dans une analyse métaphysique dans le « je ». Je suis. Au-delà du moi psychologique. J'ai dit, le jeu implique une source. Il y a une immanence dans le jeu. Une immanence qui va jusque par rapport à l'exister. Donc le jeu implique nécessairement mon âme. Mon âme est source d'autonomie. Et mon âme, c'est ma substance. Et donc, la métaphysique de la substance est présente dans le jeu. Ne disons pas que le jeu, c'est ma substance. On peut le dire d'une certaine manière. C'est ma substance en ce sens que ça touche ce qu'il y a de radical dans mon être. Et ma substance, c'est mon âme. On peut dire ça. Ce jeu implique ma substance. Ma substance, c'est quand même une réalité. C'est un principe, c'est une cause. Puisque c'est la cause selon la forme de ce que je suis. Tu peux dire que mon jeu, c'est la source de toutes mes déterminations. Dans l'ordre de mon exister, dans l'ordre de mon être. Donc c'est bien ma substance et c'est bien mon âme. Ne disons pas que la substance, c'est le jeu. Vous voyez, il y a quelque chose de plus dans le jeu que par rapport à la substance. Alors c'est ce quelque chose de plus qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus quand vous dites « je suis » plutôt que de découvrir la substance. La substance est un principe. Comme l'âme est un principe. Le « je » dans le « je suis » implique le principe, puisque c'est une source. Mais c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui existe. En termes heideggeriens, on dirait c'est un étang, c'est pas l'être. C'est un étang. Et c'est vrai, mon « je » existe autrement. Je ne dirais jamais « je ». Vous voyez la différence. Et à ce point de vue-là, c'est très intéressant de bien saisir toute la différence entre la saisie métaphysique de la substance. La saisie métaphysique de la substance comme cause, selon la forme de ce qui est. Et le jeu, c'est le pos concret, le comment concret de ma substance. Ma substance, de fait, elle existe dans ce jeu. C'est vrai, puisque ce jeu est source, source de toutes les déterminations. C'est donc bien ma substance qui est présente, mais qui existe. Alors ça, c'est très curieux. Comment puis-je passer du principe au jeu? Qu'est-ce que ça représente, ça? Je vois bien que le jeu implique la substance, puisque le jeu est source. Source de toutes mes déterminations, nous l'avons vu hier. Même source immanente de mon exister, ce qui est très curieux. Donc le jeu a une situation privilégiée vis-à-vis de l'exister. Puisqu'il y a une source immanente, d'une certaine manière, par le jeu, je saisis de l'intérieur mon être. Ce qui est très étonnant. Si vous réfléchissez bien, ne vous cassez pas la tête, mais réfléchissez bien, votre jeu est immanent à votre exister. Votre exister n'est pas extrinsèque à votre jeu. Donc, source immanente de votre exister, source de toutes les déterminations, c'est donc bien la substance, c'est donc bien votre substance, c'est donc bien ma substance. Ma substance, c'est mon jeu. Et si j'ai saisi la substance, si j'ai fait cet effort de saisir la substance, si j'ai fait cette induction difficile de saisir la substance, c'est pour comprendre en profondeur mon jeu. C'est là où je comprends l'importance de la saisie. L'importance, pour moi, de saisir ce que c'est que la substance. Parce que mon jeu, quand je le regarde comme source, selon la forme de ce qui existe, je je saisis à ce moment-là ce qu'il y a de radical dans mon jeu. Mon jeu est substantiel. C'est quand même quelque chose. Donc il est source d'autonomie, puisque la substance est source d'autonomie. J'ai une autonomie radicale dans mon jeu, dans ma personne. La personne implique la substance. Elle implique cette source de toutes mes déterminations. Puisque c'est ma substance, c'est aussi mon âme. Oui, je vais encore plus concret. Si j'ose dire, le jeu, c'est mon âme. Mais c'est mon âme qui informe mon corps. C'est donc ce qu'il y a de plus individuel en moi. Donc l'opposition entre individu et personne dégringole complètement en face du jeu. Le jeu, c'est ce qu'il y a de plus individuel et en même temps de plus personnel. C'est ma personne, mon jeu. Mais c'est très individuel, c'est pas du tout quelque chose d'universel. C'est juste l'inverse. Je suis donc là en présence de cette réalisation première, très fondamentale, très radicale, de ce que je suis, de ma propre personne. Alors, quelle différence y a-t-il entre la saisie de la substance comme principe, comme cause, et le jeu? Je dis, c'est la réalisation concrète. Comment se fait-il que cette réalisation concrète d'un principe peut s'exprimer comme ce qui est de plus intime en moi-même? Comment se fait-il que cette substance est saisie dans une sorte d'intériorité de l'être? C'est ça l'intérêt du jeu. C'est là où il y a un apport nouveau comparativement à la substance. Je peux donc comparer le point de vue personnel et le point de vue individuel, c'est très vrai. Il y a quelque chose de plus. Est-ce que ce n'est pas le propre d'une substance spirituelle qui peut avoir dans l'ordre de l'être cette capacité de réfléchir, mais radicalement sur elle-même? La substance subsiste, et la substance spirituelle a cette capacité de prendre conscience qu'elle subsiste. Vous voyez, cette espèce de réflexion au-delà du point de vue psychologique, cette réflexion sur l'autonomie propre de mon être qui est dans le jeu. Je crois qu'il faut aller jusque-là pour saisir métaphysiquement ce que c'est que le jeu. Ce que c'est que ce comment d'une substance spirituelle qui peut dire jeu. C'est quand même très extraordinaire de pouvoir dire je. Je suis. Ça prend une force étonnante. Et c'est là où je saisis cette attitude tout à fait particulière d'une substance spirituelle, qui est spirituelle en tant que substance. Ce que Descartes essayait d'exprimer en parlant d'une substance pensante, il avait bien saisi qu'il y avait quand même quelque chose dans le cogito ergo sum. Je pense donc je suis, je ne dis pas ça, puisque c'est dans le je suis qui m'intéresse, qui est premier, qui n'est pas dépendant du cogito, puisque le cogito est d'ordre intentionnel, tandis que le je suis est d'ordre substantiel dans l'ordre de l'être. Et il y a cependant dans le cogito, dans le je suis, il y a une certaine métaconscience. C'est pas la conscience psychologique. Il y a une espèce de méta-conscience au niveau du fait que ma substance, qui est mon âme, est capable de subsister en elle-même. Et donc de donner cette autonomie dans l'ordre de l'être. J'ai une autonomie dans l'ordre de l'être par mon âme. Parce que elle a cette détermination première en elle-même. Elle subsiste. Et donc, dans l'ordre de l'être, elle est capable d'avoir cette attitude réflexive sur elle-même. Je crois que le jeu, au plan métaphysique, c'est donc bien le comment de mon âme, le comment de ma propre substance, qui a cette qualité de réfléchir sur elle-même, et de réfléchir sur elle-même dans sa subsistance. Tout ça est impliqué dans le jeu, ce qui fait que le jeu est vraiment source d'autonomie dans l'ordre de l'être. J'ai une autonomie fondamentale à laquelle je tiens plus qu'à tout le reste. Alors, comprenons bien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'aliénation. Je ne peux pas dire que mon âme est aliénée. Elle est aliénée par quoi, mon âme? Si je suis platonicien, je dirais que mon âme est aliénée par mon corps. C'est la grande aliénation. Et c'est intéressant, du reste, de voir qu'au fond, pour Platon, l'âme est aliénée par le corps. C'est une aliénation substantielle dans la perspective de Platon. Parce que c'est là où j'ai le sentiment le plus net de ma limite, de mon jeu. Je suis individué par mon corps. Et si je pousse un peu, vous voyez, quand Maritain met la distinction entre individu et personne, il risque de retomber dans la position de Platon. Alors que je ne peux pas dire que mon corps m'aliène. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Vous voyez, quand on est mal dans sa peau, c'est votre corps qui vous aliène. C'est le platonisme qui renaît. Parce que être mal dans sa peau, c'est être mal dans son corps, et c'est considérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que si j'étais sans mon corps, au moins je serais quelqu'un. Je serais une personne. Mais mon pauvre corps m'aliène et m'alourdit. Et c'est vrai, c'est le premier milieu dans lequel je suis. Mon milieu que je transporte partout, celui-là. Et c'est un milieu terriblement gênant, puisqu'il est seul. Et je ne peux pas le changer. Tandis que les autres milieux, je peux peut-être changer de communauté. Petite communauté plus petite serait plus facile à porter. Tandis que là, une grosse communauté, c'est dur. Là, je porte toujours avec moi ce milieu qui est mon corps. Alors, comment dépasser cette espèce d'aliénation qui est une espèce de méta-aliénation? C'est une aliénation radicale que je transporte tout le temps avec moi. Vive la mort pour quitter mon corps! C'est ce que dit Platon, quoi. Platon dit que le philosophe aspire à la mort pour quitter son corps. Donc, pour ne plus être aliéné. Parce que c'est par là. Et cette aliénation, vous comprenez, de mon corps, fait que je porte l'aliénation des autres aussi. Parce que j'ai à côté de moi quelqu'un aussi qui est mal dans sa peau. Et qu'il y en a 80 qui sont mal dans leur peau. C'est lourd à porter. Ça fait 80 aliénations. L'individu. Alors comment comprendre ce dépassement? Mon corps n'est pas une aliénation. Il n'y a pas d'aliénation au niveau de l'être. C'est parce que mon âme est une substance. Et donc, le comment de mon âme, c'est d'informer le corps. Et mon âme n'est pleinement elle-même que quand elle informe le corps. Contrairement à ce que on pourrait dire, elle est aliénée, mais pas du tout. Mon âme est parfaitement elle-même que quand elle informe mon corps, que quand elle porte mon corps. Mon âme est à l'aise dans mon corps. Elle est parfaitement elle-même. Elle subsiste parfaitement quand elle porte dans mon corps. Comment saisir ça? C'est important. Au sens profond. Parce que quand je dis je suis, est impliqué mon corps. Je ne dis pas du tout je suis dans mon âme. Non, je suis l'unité, l'unité de mon exister. L'unité de mon exister dans le je suis implique mon corps. Ça, je ne peux pas nier. Même si, de fait, je distingue les deux, je dois dépasser cette distinction. Et dans le comment de mon exister, je vois l'unité, et une unité substantielle. Donc cette autonomie fondamentale qui vient de mon âme spirituelle, cette autonomie fondamentale, elle assume le corps. Elle ne s'oppose pas au corps, et le corps ne s'oppose pas à elle. Mais elle est assumée par mon âme. Donc toute mon individuation est présente dans cette autonomie. Mon autonomie se réalise à travers mon corps. Et mon corps implique comme une réalisation plénière de mon autonomie. Je pourrais presque dire que mon corps manifeste mon autonomie. Substantiellement, c'est mon être présent dans mon corps qui me donne cette indépendance, cette autonomie. Je vois donc qu'au niveau métaphysique, mon âme, ma substance, s'exprimant dans le « je suis », ne connaît pas d'aliénation. Le phénomène de l'aliénation est donc un petit blocage imaginatif. C'est important de saisir ce petit blocage imaginatif. Puisque métaphysiquement, je ne peux pas parler d'aliénation. L'aliénation viendrait de mon corps, mais mon corps est assumé substantiellement par mon âme. Que mon corps soit source de limite, c'est bien évident. Mais la limite n'est pas une aliénation. Il suffit de la reconnaître. Il suffit de reconnaître que je suis limité. Et c'est vrai, je suis limité dans mon être, puisque à côté de moi, il y en a un autre qui existe et qui est indépendant de moi. Donc il faut bien accepter cette limite. Et accepter ma limite, c'est le réalisme, tout simplement, du « je suis ». Le « je suis » est source de détermination et implique des limites. Et ces limites ne sont pas du tout une aliénation, c'est tout simplement mon exister qui est comme ça. Et mon existence concret qui implique ses limites. La limite n'est pas une aliénation. La limite, c'est tout simplement la conséquence de mon état concret d'une âme qui subsiste dans le corps. Mon âme est source de certaines déterminations et mon corps est source de certaines limites. Alors comment va naître l'aliénation ? constate au niveau psychologique qu'il y a un sentiment d'aliénation. Assez facilement. Nous avons tous senti à certains moments de notre vie un sentiment d'aliénation. Puis au bout d'un certain temps, on est victorieux de ce sentiment d'aliénation. C'est-à-dire, maintenant, je m'en fiche pas mal. C'est bien égal. Il y a eu une conquête qui s'est faite. Mais il y a eu un moment, une barrière. Je me suis heurté devant ça. Métaphysiquement, je saisis les limites. Je dis, la limite n'est pas une aliénation. Et ça, c'est très important. Si je confonds limite et aliénation, je suis dans l'imaginaire. Alors, d'où ça vient, ça? Vous voyez, l'imaginaire voudrait qu'il n'y ait pas de limite. C'est ça le problème de l'imaginaire. L'imaginaire voudrait qu'il n'y a pas de limite. Alors que, de fait, dans le jugement d'existence, je suis, n'est pas du tout impliqué la négation des limites. Pas du tout. Je suis. Et j'ai des dires, je suis source de détermination, mais je suis limité, puisque j'accepte qu'il y en a un autre. Du fait que j'accepte qu'il y a un autre, je suis limité. Et je demande à l'autre de me respecter comme je le respecte. Alors, je crois que ce sentiment d'aliénation provient de l'imaginaire qui voudrait que ce sentiment du moi dans l'autonomie n'ait pas de limite. Mais ça, c'est imaginaire. C'est parce que j'ai le sentiment qu'il ne faut pas de limite que je crois qu'il y ait des aliénations. Je crois ça très important pour nous guérir du sentiment d'aliénation. C'est un réalisme plus grand par rapport à notre corps. Je crois que tout sentiment d'aliénation provient d'un certain platonisme, que notre corps est extrinsèque à notre moi psychologique. Et c'est vrai qu'au niveau psychologique, je suis au niveau purement psychologique, on peut très bien avoir ce sentiment qu'au fond, notre âme est source d'indépendance et que notre corps est source de limitation, ce qui est vrai. Et cette limitation est source d'aliénation, puisque je mets une opposition entre mon âme et mon corps. Et donc tout sentiment d'aliénation radicalement provient d'un manque d'unité entre l'âme et le corps. Et on comprend très bien comment un certain platonisme nécessairement aboutit à ça. Mais si votre corps, qui est le milieu le plus immédiat, que vous transportez avec vous, vous ne pouvez pas déposer votre corps ici en disant, tiens, ce serait très agréable, déposer son corps. Partir. Non, vous allez le transporter au réfectoire. Et à ce moment-là, vous pouvez nourrir la bête. Modérément, puisque c'est mardi de carême, modérément, mais quand même. Là, vous allez dire, là aussi, sentiment d'aliénation. Trois tardines. Très bien, notre quatrième. Modération. Sentiment d'aliénation. C'est vrai, ça peut aller jusque-là, le sentiment d'aliénation. C'est empoisonnant, la pénitence. Je suis une alien. Alors que celui qui dit, mais pas du tout, au contraire, je me libère. Une tardine de moins à porter. Je me libère. Je me libère. Vous voyez, c'est très curieux. Comment la limite acceptée objectivement n'engendre pas du tout l'aliénation. Comment la limite regardée de l'extérieur engendre l'aliénation. Je crois ça très important pour nous, parce qu'il faut quand même que le « je suis » de la personne arrive à répondre à cette espèce de lutte interne l'impression de porter un couvercle au-dessus de nos forces. Et alors on veut à tout prix sortir de ce couvercle au-dessus de nos forces. Et alors on y sort quelquefois en disant, en faisant un petit contour, comme un gros chien qu'on ne veut pas rencontrer. Quelquefois, psychologiquement, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas regarder l'obstacle en face. Regarder l'obstacle en face et dire, mais oui, avant, j'ai jamais accepté mon corps. Ça arrive. Alors que mon âme informe mon corps. Et la métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus concret. C'est bien plus concret que la psychologie. Et donc quand il dit je suis, que j'essaie de le comprendre au point de vue métaphysique, je vois comment ma personne qui s'enracine dans mon âme,